Bienvenue sur Radio CAD. Une radio par et pour les lycéens, produite par le lycée Charles et Adrien Dupuy.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du pays insulaire de l'Asie de l'Est, situé à l'est de la Chine et au nord de Taïwan. Vous avez bien compris, nous allons parler du Japon. Mais avant d'en faire l'éloge, voyons un peu ce que la communauté en pense.
À quoi tu penses quand tu entends le mot Japon ?
Un pays d'Asie.
Ben, je vois des kimonos, des cerisiers en fleurs et le drapeau du Japon.
Je pense surtout aux mangas.
Les mangas et les animés. C'est un pays très développé dans la technologie.
Japon, Seconde Guerre mondiale.
À la nourriture japonaise, au ramen.
En effet, le Japon est inondé d'idées reçues par lesquelles on croit le connaître, notamment à travers la culture qu'il nous fait percevoir. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les mangas, les animés, le cosplay, la nourriture japonaise typiquement classique, comme les sushis, les onigiri ou encore le ramen. Ou bien ces tenues vestimentaires traditionnelles, comme les kimonos, qui en fait signifient tout simplement « vêtements ». Ce magnifique pays, bien plus grand qu'on ne le croit, ne se définit pas uniquement par ces sujets-là, mais par son passé historique ou ses contes et légendes. Par exemple, les Japonais possèdent un style vestimentaire hors du commun qu'envie toute l'Europe. Le saviez-vous ? Ils ont des mots pour tout. Un mot même pour définir les rayons du soleil qui filtrent à travers la cime des arbres. Ce mot-là est « Komorebi ». Magnifique, n'est-ce pas ?
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、皆さん。元気ですか?
La vie au Japon, ce n'est pas comme dans les animés. Si nous avions 4 heures pour en discuter, nous pourrions être plus précis. Or, ni vous ni moi n'avions ce temps. Que savez-vous maintenant? Un des pays les plus sûrs du monde, bien Billy! Une population vieillissante, car on y vit très vieux, mais on y voit un déficit des naissances à sa centre terminale qui est écouté en enseignement scientifique. Un pays avec un contraste énorme entre sa technologie de pointe et pourtant l'importance de ses traditions encore aujourd'hui. On voit bien qu'il y en a qui suivent. Jamina, hajime masho. Attaquons par quelque chose de simple. Comment prénomme-t-on quelqu'un en japonais? Le nom avant le prénom, bien sûr. Les suffixes honorifiques dépendent du statut de la personne vis-à-vis de soi. Quelques exemples. Dans ma classe, il y a cette fille que je connais à peine. Son nom est Kanzaki Yayoi. Comment est-ce que je l'appelle ? Kanzaki-san ! Mon prof de maths s'appelle Sato Hiroto. C'est Sato-sensei. Ce garçon dans mon club de théâtre que je connais depuis assez longtemps, qui s'appelle Tanaka Satoshi, Satoshi-kun ! Suzuki Junko, ma patronne qui me fait un peu peur. Suzuki-sama. Kobayashi Hinata, qui travaille avec moi pour le journal du lycée et qui est dans une classe supérieure. Kobayashi-senpai. Et il y en a tellement, tellement, tellement. Ces suffixes honorifiques sont une règle générale, pas forcément appliquée à la lettre selon la situation, et leur traduction est difficile. Nous allons revenir à la langue japonaise pour la suite de cette chronique, mais pour l'instant, arrêtons-nous là.
Qu'est-ce que tu connais de la société ou de la culture japonaise ?
Absolument rien.
C'est une société très codifiée où les élèves, par exemple, sont en uniforme dans les écoles, où les gens qui travaillent dans les bureaux s'habillent tous pareil, où les traditions anciennes sont beaucoup respectées et où il reste encore beaucoup de temples et autres.
Je pense que c'est, par exemple, le Japon comme la Chine, c'est un pays qui privilégie plus... La communauté, c'est pour ça que par exemple, il y a moins de refus du port de masque dans des pays d'Asie que par exemple aux États-Unis où c'est plus individualiste.
Ils sont très respectueux, très polis.
Il faut respecter ses aînés.
Samouraï.
Deuxième point. Comment ça se passe à l'école au Japon ? Car on vous voit venir, vous les otaku qui souhaitiez passer votre lycée au Japon. On va d'abord à une bonne yoshien, la maternelle, puis à une bonne shogakko, la primaire, puis une bonne shugakko, le collège, et à un bon koko, avant de passer les concours pour avoir une bonne université. L'année commence en avril, par une cérémonie d'entrée, et se termine en mars. À la différence du système français, les élèves nettoient eux-mêmes les salles de classe et leurs établissements. On y porte l'uniforme, qui n'est pas nécessairement le Sailor Foku que l'on voit dans les animes, c'est surtout un uniforme de collégien d'ailleurs, et des années 90-2000. Aujourd'hui, le blazer et la cravate sont plus courants. Et si les cours finissent aux alentours de 15h, on reste à l'école dans des clubs et on va à Ochuku. Les cours privés du soir, dans un autre établissement. Pourquoi se rajouter des cours, me demanderiez-vous ? Parce que pour rentrer dans les établissements scolaires, de la primaire à l'université, on passe par des concours plus ou moins exigeants. Il existe même des concours d'entrée pour certaines maternelles prestigieuses. Cela reste marginal, mais assez intéressant à noter. L'école a un rôle très important dans la société japonaise, car on a besoin d'avoir des diplômes pour rentrer dans la vie active, et le système offre un cursus général assez complet. À l'école, si en France on est plutôt poussé vers un certain individualisme, au Japon, les élèves forment un groupe qui tend à s'uniformiser, tant par la tenue en voyant par exemple les règlements de certains lycées tokyoïtes qui en plus de l'uniforme interdisent les bijoux, imposent une couleur de cheveux, le noir avec en plus parfois l'obligation de fournir un certificat de couleur naturelle, et un matériel unique que par la mentalité. Un proverbe très appliqué. Le clou qui dépasse se fait taper dessus. C'est assez valable dans l'ensemble de la société japonaise si l'on cherche à généraliser. Cette uniformisation a une conséquence dramatique. L'ijime, le harcèlement scolaire, responsable de 2,7% des suicides des moins de 19 ans en 2018. Certains de nos auditeurs sont extrêmement sensibles à cette problématique. C'est pour cela que Radio CAD n'abordera pas le sujet ici. Nous invitons notre public curieux à faire ses recherches par lui-même.
Et pour toi, c'est quoi le Japon ?
De grandes villes, très récentes.
Ouf, soleil couchant, peut-être ?
Aux mangas, aux animés, aux petites figurines qui vendent aussi, et surtout à la technologie qui est développée là-bas.
C'est un pays membre de l'ONU ?
De grandes villes, très récentes, parce qu'elles ont été détruites par des séismes, des...
Îles ?
Pour moi, c'est un pays grand, avec beaucoup de traditions.
C'est une petite île très très peuplée, il y a beaucoup d'habitants, on dirait un peu des fourmis quand on les voit dans les rues et autres, mais voilà.
Maintenant, abordons la vie active et l'âge adulte. Le travail est une valeur très importante dans la société japonaise. Créons un salaryman de base, appelons-le Naoki. Naoki a été récemment embauché dans une grande entreprise au département compta. Pas vraiment le job de ses rêves, mais il faut bien travailler et ne pas décevoir sa famille. Comme 60% des hommes japonais entre 18 et 34 ans, d'après le National Institute of Population and Social Security Research, admirez mon accent, il est célibataire. Il reste à son bureau jusqu'à ce que son patron s'en aille, car le patron est Dieu, et après le travail, il se rend dans un bar avec ses collègues dans le cadre d'un nomikai. Loin d'être une rencontre amicale, le nomikai est une institution professionnelle très codifiée. Il discute avec Akiko, sa collègue du département des ventes, elle est aussi embauchée depuis peu. Elle explique qu'elle subit énormément de pression et qu'elle espère pouvoir se marier et, comme plus d'un tiers des japonaises en 2013, souhaiterait devenir femme au foyer. Le temps passe, Naoki et Akiko finissent par apprendre à se connaître, puis par se marier. Ils ont aux alentours de 30 ans, l'âge moyen pour un premier mariage selon le gouvernement japonais. Akiko reste au foyer, Naoki travaille, et très vite le désintérêt mutuel s'installe. Comme 47,5% des couples mariés japonais selon la JFPA, ils ne couchent plus ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Comme un peu plus de 20% des employés de bureau, Naoki travaille plus de 49 heures par semaine. Un jour, Akiko prend un appel, Naoki vient de se suicider. En 2018, plus de 20 000 personnes se sont suicidées au Japon. Dans le cas de Naoki, c'est à cause de la surcharge de travail. C'est le karoshi, la mort par le travail. Le manga « Quittez votre boulot avant qu'il ne vous tue » par Kona Shiomachi, Arte y a consacré un documentaire, en parle très bien. vient la mort. Au Japon, la mort, c'est du sérieux. La majorité des Japonais sont bouddhistes. Et selon la pensée bouddhiste, l'âme survit au corps. La mort au Japon, ça prend un mois et demi après le décès. Tout d'abord, on prépare le corps avec de nombreux rites purificateurs et on a possibilité, en tout cas la famille a possibilité, de participer à cette préparation. Ensuite, il y a la veillée mortuelle. On porte un costume noir enterrement. Tout le monde porte le même. La cérémonie est officiée par un prêtre bouddhiste. Le prêtre récite ses sutras pendant que les invités, deux par deux ou trois par trois, s'avancent au milieu de la pièce. Ils saluent d'un côté les membres de la famille, de l'autre d'autres membres de la famille, puis ensuite s'inclinent devant le défunt. La première chose qu'on fait en arrivant, c'est déposer une petite enveloppe d'argent et on reçoit un petit cadeau. Et la première chose qu'on fait quand on rentre à la maison, juste sur le seuil de la porte, on met du sel sur son épaule pour empêcher que les esprits entrent. Le lendemain, c'est juste la famille qui est au crématorium. On emmène le corps pour se faire incinérer et on amène les restes de la crémation aux proches. Par groupe de deux, on prend les os pour les mettre dans l'urne. Imaginez une table avec les restes du défunt. Une personne avec des baguettes prend les os, se tourne vers une deuxième personne, lui tend les os avec les baguettes. Cette personne attrape avec les baguettes le ditos et le met dans l'urne funéraire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très 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 impoli de passer la nourriture de baguette en baguette au Japon. Ça fait référence à cette cérémonie. Une fois que tous les os sont dans l'urne, on mange. Et avec le défunt, qui est présent avec son urne, sa photo et son plateau repas. Ensuite, la famille garde pendant 49 jours l'urne. Il y a une deuxième cérémonie, similaire à la première, avec l'encens, mais pas dans un bâtiment impersonnel, non, dans le temple du cimetière. On donne le nouveau nom du défunt et on enterre l'urne dans le caveau familial. Aujourd'hui, les Japonais cherchent à supprimer certaines étapes. À noter que le Japon est un pays vieillissant et qui rencontre un vrai problème par rapport à son déficit des naissances. Ce qui explique que, après une vie bien remplie, des personnes âgées se retrouvent à mourir seules dans la mégalopole la plus peuplée du monde.
Maintenant, parlons un peu de cinéma au Japon. Il y a bien évidemment les mangas et les animés bien connus de tous. Ils possèdent une large audience au Japon et sont facilement reconnaissables dans le monde entier. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le cinéma d'animation japonais, notamment représenté par Hayao Miyazaki. Si vous êtes un fan incontesté de ces films, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des sujets récurrents comme la guerre, les armes ou les bombardements. Malheureusement, c'est parce que la famille Miyazaki a été contrainte de fuir Tokyo à cause des bombardements de l'armée américaine. Et cette expérience laissera une empreinte profonde chez le cinéaste que l'on peut retrouver dans ses œuvres, comme le deuil, l'aviation, l'enfance et l'attachement à la nature. Il ne renoncera jamais à son rêve et commencera sa carrière accompagné de deux confrères avec un premier long métrage de Takahata, Les Aventures de Holz, Prince du Soleil, en 1968. En 1984, le studio Ghibli est né. C'est un studio entièrement dévolu à l'animation de qualité. Il conjugue exigence et succès public. Avec eux, il fera beaucoup de grands films à succès, comme Le Château dans le Ciel en 1986 et Mon voisin Totoro en 1988. Et enfin, en 1997, La princesse Mononoke, qui remporte un énorme succès au Japon, attirant près de 15 millions de spectateurs, un record pour un film d'animation. Vous pensiez que le cinéma d'animation n'était qu'un type de cinéma banal ? Figurez-vous que Miyazaki remporta l'Oscar du meilleur film d'animation ainsi que l'Ours d'Or au Festival de Berlin en 2002 avec Le Voyage de Chihiro. Et enfin, à 72 ans, en septembre 2013, il annonce officiellement sa retraite en tant que réalisateur de films d'animation. Mais toujours en donnant son aide au studio Ghibli par la suite. Son cinéma est à la fois pour les enfants, avec ses dessins colorés et variés et fantastiques, représentant des mondes extraordinaires qui font rêver les plus sceptiques, mais aussi pour les adultes, avec le côté beaucoup plus symbolique, avec le sous-texte et les messages cachés. Ses personnages sont attachants, parfois tirés de légendes ou de rêveries. Les décors sont aussi énigmatiques que fabuleux. tout son univers repose sur la pédagogie, l'éveil de l'enfance et la curiosité, les valeurs universelles et écologiques. D'ailleurs, si vous avez remarqué, beaucoup de ces héros sont des enfants ou des adolescents. Et enfin, j'aimerais dire qu'en tant que grande fan moi-même, j'ai bien évidemment mon top 3 de ces chefs-d'œuvre. En troisième position, Le Château dans le ciel. En deuxième position, Le Château ambulant avec le fameux Aoru. Et enfin, en première position, La Princesse Mononoké. Mettre des loups géants dans une histoire aussi incroyable, ça m'a séduite dès mon plus jeune âge. Et toi, quel est ton top 3 des films de Miyazaki ?
À Clermont-Ferrand, devant le Polydôme, sont plantés un certain nombre de cerisiers japonais. En connaissez-vous l'histoire ? Ils ont été plantés en 2017, à l'occasion du France Butokusai, et pour commémorer les 159 ans de l'amitié franco-japonaise. Moi, j'y étais. Mais le Butokusai, Kezako, sans rentrer dans les détails, c'est un séminaire des Budo, soit les arts martiaux traditionnels japonais, organisé par la Dai Nippon Butokukai, ou DNBK. Et la DNBK ? Il s'agit d'une institution japonaise créée en 1895, pendant l'ère Meiji, par le gouvernement japonais avec le soutien de l'empereur Akihito, dans le but de préserver les arts martiaux traditionnels et la culture des samouraïs. En 2017, j'étais au Butokusai. J'étais parmi les plus de 700 participants, issus de 25 pays différents. J'étais parmi les 100 jeunes de la délégation française au Youth Butokusai. On nous avait annoncé qu'il y aurait un autre Butokusai en 2020 à Kyoto, pendant les JO, mais il y a un petit truc qui se balade en ce moment, le Covid, et c'est reporté en 2021. Mais que faisait une petite altigérienne de 13 ans alors dans l'épicentre du monde du Budo en 2017 ? Chères personnes dont j'ai l'attention, laissez-moi vous présenter l'aïkido. L'aïkido est un art martial sans compétition, non violent, et non, ce n'est pas antinomique. Par contre, la non-violence de l'aïkido, ce n'est pas faire des câlins à son ennemi, ce n'est pas le monde, il est tout beau, il est tout gentil, hein. L'aïkido est un art martial éthique, esthétique et efficace. On se respecte, on respecte son adversaire et la pratique, on cherche le beau et on ne fait pas semblant. Créé par Moriei Ueshiba, on l'appelle O-sensei, entre 1925 et 1969, reconnu officiellement par le gouvernement japonais en 1940 sous le nom d'Aikibudo, puis est nommé Aikido par la DNBK en 1942. Cet art martial se divise en plusieurs disciplines, l'Aikitaijutsu, travail aux mains, l'Aikijo Aikiken, travail aux armes, et l'Aikishintaiso, travail du corps. L'aïkido est, en 1948, le premier art martial réautorisé par les Américains au Japon. La France est, en dehors du Japon, un pays avec le plus de pratiquants, avec plus de 30 000 licenciés d'après les chiffres de la Fédération française d'aïkido et de Budo. Où suis-je ? À la 3 AKH, fondée par maître André Cognard, qui fait partie de Kokusai Aikido Kenshukai Hirokazu Ryu. L'aïkido est un art martial qui met beaucoup l'accent sur l'étiquette, sur le respect d'autrui, la discipline et le protocole. D'un point de vue extérieur, cela peut paraître assez étrange. On se salue très souvent, le sensei dit quelque chose et on s'exécute tout de suite, on se précipite pour plier les hakama des plus gradés. Le hakama, c'est une pièce de la tenue de pratique. Les petits grades comme moi portent une sorte de kimono de judo tout blanc ou avec une ceinture colorée selon les écoles. Et les plus hauts grades ont ce pantalon slash jupe avec 7 plis, généralement noir ou bleu, le hakama. La pratique peut être très impressionnante, entre le travail au sabre, le ken, et celui au bâton, le jo, ou les projections. Pour ne pas effrayer les potentiels pratiquants, oui, c'est exigeant. Mais les apports sont impressionnants. La souplesse, la discipline, le respect de soi et des autres ou des rencontres fabuleuses. Le sensei est là avant tout pour enseigner à tout le monde. Donc la bienveillance est de mine.
Mais dis Naïs, tu fais de l'aïkido depuis longtemps, non ? Vas-y, vas-y, fais-moi une prise !
Ushiro ryote dori tenshinage. Pratique l'aïkido et tu comprendras.
C'était Radio CAD, à la découverte du Japon, enregistré en décembre 2020 du lycée Charles et Adrien Dupuis, au puits en Velay. Rédactrice en chef, Martine. Journalistes, Anna et Naïs. Rendez-vous pour le prochain numéro, les jeunes et l'engagement écologiste. À bientôt.